des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
Parlons maintenant du projet de loi sur le rapport d'impôt unique qui a été abandonné par les conservateurs à la surprise des députés du Bloc. On a d'ailleurs parlé à Gabrielle Sainte-Marie plus tôt cette semaine. On a essayé de parler à des conservateurs, mais ça n'a pas marché. On va en parler avec Hélène Budgetti. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Nouvelle chroniqueuse en politique fédérale pour les coop de l'information qui publie ce matin sa première chronique qui s'intitule « Le coup d'un timbre » et qui porte précisément sur cette espèce d'imbroglio là, autour du projet de loi sur le rapport d'impôt unique. D'abord, Hélène, tu parles de timbre. Tu envoies encore tes rapports d'impôt par la poste?
Je confesse que oui. Je suis de la vieille école et je suis de celle qui adore remplir ses rapports d'impôts. J'aime ça, c'est comme un rituel à chaque année. Et je dois avouer que je trouve souvent les programmes informatiques un peu compliqués. Ils essayent de réfléchir à ma place. J'aime pas ça. Alors oui, j'aime bien encore le processus du papier. Voilà, je suis une fille du papier et de l'écrit et ça se traduit jusque-là.
Vous êtes une espèce en voie de disparition. Et je pense que si tout le monde envoyait ça par voie électronique, je pense que ce serait comme un rapport d'impôt unique, hein, il me semble. Il y a certains fiscalistes qui disent ça.
Ben, moyen, parce qu'il faudrait encore l'envoyer à Québec et à Ottawa. Là,
ouais.
Donc, ça ne changerait rien dans les faits, là.
Oui, c'est ça. Il faudra en remplir deux quand même. Mais s'il y en avait juste un, ce serait un chamboulement de structure, écris-tu, qui pourrait se solder par un nombre à peu près équivalent de pages à remplir. Ça reviendrait au même. Et en bout de piste, dis-tu, justement, le contribuable épargnerait seulement le coût d'un timbre. Donc, ça serait... on ferait ça pour rien, au fond.
Mais je pense que toute cette idée du rapport d'impôt unique, c'est une sorte de Saint Graal. Les gens, contrairement à moi, n'aiment pas en général faire le rapport d'impôt. C'est un processus fastidieux. La plupart d'ailleurs le donnent maintenant à contrat à un comptable. Ils n'aiment pas ça et l'idée d'avoir un rapport d'impôt unique, ils voient ça comme une façon de se simplifier la vie. Au lieu de remplir deux formulaires, il n'y en aurait rien qu'un. Alléluia, ma vie est plus simple. Mais dans la réalité, c'est plus complexe que ça et c'est ce que j'explique dans mon texte ce matin, c'est que les règles fiscales à Ottawa et à Québec sont différentes. On a des crédits d'impôt qui sont différents, pas de la même ampleur, pas pour les mêmes comportements que l'on veut favoriser ou décourager. Et donc, on peut pas juste faire un seul calcul pour les deux paliers de gouvernement. Il faut nécessairement faire deux calculs. Ailleurs dans le pays, dans les 9 autres provinces, il y a un rapport d'impôt unique, entre guillemets, et c'est Ottawa qui le gère. Mais quand on va y regarder de plus près, on regarde le formulaire fiscal d'Ottawa, et contrairement à celui qu'on remplit au Québec, il y a une annexe de plus pour calculer l'impôt provincial. Et cette annexe-là, là, ben, c'est la même affaire, la même longueur que nous, au Québec, le rapport d'impôt provincial. Mm-hmm. Il fait 3 ou 4 pages, selon la province, auxquelles s'ajoutent des grilles de calcul, des calculs pour des crédits quelconques, etc. Bref, inséré dans le rapport fédéral, dans le fond, c'est un rapport provincial. Et c'est ça que je veux dire par le prix d'un thème, c'est que même si on adoptait un rapport soi-disant unique, on aurait quand même un même nombre de pages à remplir, mais c'est juste qu'au lieu de l'envoyer à deux places différentes, on l'enverrait à un seul endroit, mais on n'épargnerait pas sur le temps et les calculs, ça serait à peu près la même affaire.
Mais certains disent, je pense que c'est l'IRAI, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples, qui a dit que c'était quoi, 425 millions qu'on pourrait sauver avec un seul rapport d'impôt?
Oui, parce qu'il y a sûrement des dédoublements, parce que le fait qu'on ait deux séries de personnes qui regardent nos petits calculs, nos petites feuilles, ça crée des dédoublements. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ceux qui encaisseraient l'économie, c'est probablement le gouvernement fédéral, parce que c'est lui qui pourrait faire sans les employés qui l'utilisent en ce moment pour traiter la déclaration fédérale des Québécois. On parle d'à peu près 1000 personnes à Jonquière, à peu près 1500 personnes à Shawinigan. Alors, si on économise les employés, c'est Ottawa qui fera l'économie. Mm-hmm. Québec, lui, aurait probablement des dépenses supplémentaires à faire parce que, oui, OK, le monde qu'il a déjà pour traiter les déclarations provinciales pourrait sûrement s'occuper maintenant de la déclaration plus longue, mais il y aurait toute une nouvelle mission dont il devrait s'occuper, celle de la lutte à l'évasion fiscale à l'international. Ça, c'est Ottawa qui fait ça d'habitude. Ottawa qui obtient des données des juridictions étrangères, d'autres pays avec lesquels on a des ententes de partage de renseignements. Ottawa reçoit ça et quand Ottawa détecte de l'évasion fiscale, émet un avis de cotisation et ensuite avertit la province qui envoie un avis elle aussi. Là, il faudrait que Québec se dote de ressources spécialisées pour faire ça, ce qu'il n'a pas en ce moment, et il ne pourrait pas nécessairement aller piger dans les emplois perdus à Jonquière et Shawinigan parce que ce ne sont pas le même type de personnes, ils n'ont pas cette compétence. Donc, économie à Ottawa, mais probablement plus de dépenses à Québec.
C'est une demande quand même très politique. Il y a un consensus de tous les partis à l'Assemblée nationale. François Legault l'a officiellement demandé à Justin Trudeau. J'imagine que c'est pour ça que c'est symbolique. C'est symboliquement très fort, cette demande-là.
Ah oui, puis c'est comme je l'ai dit, je pense que c'est une demande populiste, et je ne le dis pas dans le sens péjoratif du terme, mais je pense qu'on sait que les citoyens disent « Ah, ça serait plus simple », et donc on leur fait cette demande. Mais je serais très étonnée qu'un jour ça se matérialise parce que ça nécessiterait tellement de modifications, des systèmes, etc. Et à Ottawa, c'est ça qu'on dit. On dit, ben écoute, rapport unique, bien sûr, mais dans tout le reste du pays, c'est nous qui nous en occupons, pas la province. Donc, c'est ça la position de départ des libéraux de Justin Trudeau, en tout cas. Et ce qui nous amène, évidemment, aux conservateurs qui se disent ouverts à l'affaire. Mais là, avec le nouveau chef Erin O'Toole, on sent un petit flottement par rapport à...
Il est vire-capot là-dessus, pour reprendre le terme que tu utilises.
Ben écoute... Officiellement, ils disent que non. Alors, oui, ils ont contribué à faire dérailler le projet de loi bloquiste plus tôt cette semaine. Ils ont évoqué deux arguments, celui des emplois perdus. Donc, ils disent on veut avoir plus d'informations, on veut faire plus de recherches pour voir comment préserver ces emplois. Et ça, c'est sûrement l'influence là, du nouveau lieutenant québécois de M. O'Toole, Richard Martel, qui est un député du Saguenay, et donc qui est très sensible là, à la question des pertes d'emploi.
Pourtant, il y a des bloquistes au Saguenay.
Ben oui, exactement.
Donc, puis eux ont réussi à rencontrer les syndicats puis ont rassuré les gens.
Exact. En tout cas, c'est clairement pas un enjeu qui fondamental ou en tout cas qui détermine le vote des Saguenayens parce que ils ont voté pour deux bloquistes dans deux des circonscriptions. Puis dans la troisième, oui, c'est Monsieur Martel qui a été élu, mais son plus proche rival, c'est un bloquiste. Mais rappelons-nous qu'à l'époque où le NPD avait encore plus de députés au Québec, le NPD était en théorie pour le rapport d'impôt unique et il avait lui aussi viré sa veste parce que une de ses députées, Karine Trudel, qui était du Saguenay elle aussi, elle avait parlé aux syndicats qui leur avait dit « Mais non, on va perdre trop d'emplois. » Et on sait que le NPD, pour eux autres, l'emploi, c'est important. Et donc, ils avaient changé d'avis. Alors, la réalité du terrain tempère, en tout cas, les velléités des partis à Ottawa.
Mais oui. Surtout que le Bloc dit que le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec est venu témoigner en comité pour dissiper les craintes sur les fameuses pertes d'emplois.
J'ai pas entendu ce témoignage-là, je dois dire, mais il y a d'autres syndicats, notamment de ceux des employés de l'Agence de revenus, qui sont beaucoup plus inquiets. Alors, il y a plein de versions, puis tu sais, en bout de piste, on le saura seulement si on tente l'initiative. Là, il y a quand même un peu d'inconnu dans tout ça.
Mais
officiellement, les conservateurs se disent encore en faveur du rapport unique. Ils disent juste que, dans le fond, le projet de loi bloqué, c'était pas le bon. Je pense qu'aussi, qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'au Québec, les conservateurs essaient de faire des percées. Et là où ils veulent faire des percées, leur plus proche rival, c'est le Bloc, évidemment. Ils sont en compétition pour les mêmes votes.
Ouais.
Ça leur tentait probablement pas de donner cette victoire-là aux bloquistes. Parce que si le projet de loi avait passé, là, compte tenu qu'on est en situation minoritaire, bon, ça dépend quand on aura lu l'élection, mais il aurait pu aboutir ce projet de loi-là parce que les libéraux font pas le poids. Alors, là, ça aurait été une victoire pour le Bloc. Et est-ce que les conservateurs voulaient de ça? Pas vraiment. Monsieur O'Toole veut faire campagne en disant on va être l'ami de Monsieur Legault, on va écouter Monsieur Legault, on va lui donner ce qu'il veut. Et donc, on n'avait pas tellement envie de donner une victoire bloquiste,
surtout
en ce moment quand ça, tu sais, on parle d'autre chose.
Parlons de Johnson & Johnson maintenant, dont le vaccin a été accepté par Santé Canada. Il y a quelques semaines, on disait Justin Trudeau, il réussira jamais à remplir sa promesse de vacciner tous les Canadiens qui veulent l'être avant la fin septembre. Mais avec un nouveau vaccin comme ça, avec les doses qu'on reçoit, de plus en plus, on pense que ça va être possible. Et ça sent les élections, non? Ça fait en sorte que ça peut être tentant pour lui d'aller en élection.
Ah oui, absolument. Moi, j'avoue que j'ai toujours été sceptique face au scepticisme vaccinal parce que je voyais bien la situation. Et effectivement, on voit que c'est ça qui est en train de se passer. Là, ça fait 4 vaccins maintenant qui sont approuvés au Canada. Les fonctionnaires ce matin, j'avoue que je n'ai pas vérifié, mais affirmaient que on est la juridiction qui a approuvé le plus grand nombre de vaccins différents dans le monde.
Ah, oui.
J'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'ils affirment. Johnson & Johnson, là, on n'a pas encore l'échéancier des livraisons. Ils vont nous être donnés plus tard aujourd'hui. Mais en plus, c'est un vaccin à dose unique. Donc ça, c'est encore mieux parce qu'on n'a pas besoin de diviser par 2 pour avoir le nombre de personnes vaccinées. On commence à nager dans les vaccins et donc oui, ça nous réouvre la fenêtre printanière pour une élection. Je pense que M. Trudeau nous a dit septembre, mais dans sa tête à lui, c'était clair que ça serait déjà plus tôt que ça. Puis là, avec ces 4 vaccins-là et dizaines de millions de doses qui arrivent, là, ça pourrait être encore plus tôt qu'on pense. Petite affaire que je veux dire là-dessus, on dit souvent ah, c'est incroyable, le Canada, on est loin là dans le classement des pays dans le monde qui ont vacciné le plus de personnes.
Ouais.
Le dernier classement là, que j'ai vu, celui de l'Université d'Oxford, hier soir, on plaçait au 55e rang. Plusieurs disent ça n'a pas d'allure, mais il faut prendre ça avec un petit grain de sel parce que j'ai regardé la liste plus attentivement. Et dans les pays qui nous devancent, donc les 54 autres qui arrivent avant nous, il y en a 19 là, que c'est des tout petits pays là, de moins d'un demi-million de personnes. Ça veut dire qu'eux autres, là, ils reçoivent 100 boîtes de Pfizer puis ils ont vacciné la moitié de leur population. T'sais, je pense aux îles Seychelles, les îles Caïmans, Monaco, Guadeloupe. Ouais. Et en plus, ajoutez à ça 4 autres pays, notamment le Chili, qui, eux, utilisent le vaccin chinois. Et on sait là toute la diplomatie du vaccin qu'utilise la Chine en ce moment. Je suis pas sûre qu'au Canada, on avait le goût d'avoir le vaccin chinois. Alors, quand vous enlevez tous ces pays-là, ben on revient à peu près au 32e rang. C'est peut-être pas si mal, finalement. En tout cas, compte tenu surtout qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays qui, eux, n'ont pas commencé du tout, là.
Très bien, mais merci beaucoup Hélène Buzzetti pour cette chronique et nouvelle chroniqueuse en politique fédérale pour les coop de l'information. Je renvoie à ton texte de ce matin, Le coût d'un timbre. Merci encore.
Très gentil, au revoir.
Et c'est ce qui met fin à La haut sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.